Le proton se rebiffe. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. Écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité, et c'est le Proton se rebiffe. Aujourd'hui, on va parler d'un livre extrêmement intéressant et remarquablement bien fait, un livre d'André Rouillet qui s'appelle « La photo numérique, une force néolibérale », c'est paru aux éditions de L'Échappée. La base de ce livre, c'est bien entendu de comparer les deux types de photographie que nous connaissons, c'est-à-dire le premier type qui est apparu, la photo argentique, qui s'appelle photo argentique parce qu'elle est basée sur une réaction chimique entre la lumière, les sels d'argent et des réactifs chimiques, et la photo que nous utilisons le plus maintenant, la photo numérique. Ceci n'est pas seulement une question de critique d'art ou de discussion pour les fanatiques de la photo, non, c'est beaucoup plus compliqué, plus intéressant et plus riche que ça. C'est que le changement, le passage d'une technologie à une autre est à la fois le révélateur et la cause d'un changement de société, et cette analyse de la photo numérique va nous permettre en réalité de faire une analyse de la société néolibérale. Pour comprendre le changement opéré entre la photo argentique et la photo numérique, évidemment, ce qu'il importe d'abord de comprendre, c'est qu'est-ce que c'était que la photo argentique. Dans l'univers de la production d'images, la photo argentique, c'est le passage de la main à la machine. Avant la photo argentique, les êtres humains créent des images par exemple la peinture, par le vitrail, éventuellement par la sculpture. Bref, pendant tout le processus, la main de l'homme touche quasiment directement l'image. Avec la photo argentique, ce processus devient plus indirect et passe par l'intermédiaire de machines. Alors, les machines de la photo argentique, bien, il y a bien entendu l'appareil photo. Et de quoi se composait l'appareil photo? Tout d'abord d'un viseur, ensuite d'une chambre où il y avait un rouleau de photos. Évidemment, à l'origine, c'était encore plus simple que ça. Les appareils photo du 19e siècle, le rouleau était remplacé par une plaque, un diaphragme qui décidait du moment où la lumière entrait, frappait le rouleau pour créer la réaction chimique qui allait immobiliser l'image, et un objectif ou une lentille qui permettait de s'approcher plus ou moins de ce que l'on désirait photographier. Et puis, très important, une fois la photographie prise, une fois le rouleau ou la plaque imprimée, eh bien, il fallait le développer et la photo argentique passait donc obligatoirement par les laboratoires. Alors, il y avait des amateurs qui avaient des laboratoires chez eux. Enfin, principalement, on passait par des laboratoires où se produisaient des réactions chimiques qui donnait finalement la photographie. Et cette structure est donc une structure extrêmement dépendante des machines. Elle reproduit par là la société de la fin du 19e siècle et la société du 20e siècle, une société qui a été marquée par la domination de la machine et de l'industrie. Or, l'extraordinaire puissance des machines, leur extraordinaire pouvoir, leur apparente fiabilité, leur supériorité par rapport à tant de capacités humaines qui se retrouvent toutes dans la photographie argentique, eh bien, tout ceci va créer l'illusion que la photographie argentique, c'est la vérité, qu'une photo ne ment pas. Bien entendu, on saura dès le départ qu'on peut faire des trucages. Néanmoins, l'attitude fondamentale des gens qui ont fait de la photo argentique, c'était que la photo, c'était la vérité. Et pourquoi est-ce que c'était la vérité? Parce que on avait l'impression que la photo argentique était uniquement une empreinte du monde. Et ma foi, les empreintes ne sont pas censées mentir. On avait l'impression que la photo argentique immobilisait le temps, qu'elle gelait le passé, et que ensuite, par conséquent, la photo argentique permettait une énorme documentation du monde. Cette documentation du monde s'inscrivait par conséquent dans le projet plus vaste, avec d'autres méthodes, d'autres techniques, d'autres domaines de conquête du monde autour des êtres humains qui s'est passé pendant le 19e et le 20e siècle. On va conquérir l'intérieur des corps, on va conquérir les microbes, on va commencer à conquérir l'espace, on conquiert le ciel, on conquiert les océans. Tout ceci, c'est la même logique. Et c'est une logique, puisque c'est une logique de conquête, c'est une logique relativement impérialiste, et c'est donc aussi une logique profondément hiérarchique. De quoi parle-t-on en matière de hiérarchie dans la photo argentique? Eh bien, tout d'abord, il y a une différence brutale entre l'être humain qui photographie et ce qu'il photographie, que ce soit d'autres êtres humains, que ce soit des objets, que ce soit des paysages. Le photographe, c'est un peu une espèce de démiurge qui va créer une image, mais qui en même temps saisit une partie du monde, l'immobilise et donc bénéficie d'une espèce de pouvoir énorme. Et il y a même une structure, on va dire, spatiale de cette hiérarchie. Je m'explique. L'œil du photographe se colle au viseur et ensuite la lumière lui parvient par l'intermédiaire de l'objectif. Mais le viseur, nous le savons tous, c'est un objet qui est extrêmement petit. Or, la photographie peut photographier des espaces absolument gigantesques. Alors, c'est un peu difficile à expliquer oralement, néanmoins, essayez d'imaginer quelle est la structure spatiale de l'acte de photographier quand on fait une photographie argentique. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le cône de vision. La pointe du cône, c'est l'œil du photographe. Et puis, à partir de cette pointe extrêmement réduite, nos pupilles et nos iris sont vraiment tout petits, eh bien, il y a un cône donc, qui va s'élargir jusqu'à l'objet que l'on photographie, voire plus précisément jusqu'à l'arrière-plan de ce que l'on photographie. Et les cônes, ma foi, on sait bien que c'est une structure qui plaît bien, qui plaît bien à ceux qui aiment les hiérarchies. Également, le côté hiérarchique est renforcé par l'acte même de la photographie, qui est une espèce, symboliquement, de saisie, de capture de ce que l'on photographie. On sait que dans la pratique en particulier des touristes, qu'est-ce que fait le touriste? Bien, il se photographie lui-même devant l'objet prestigieux qu'il est venu visiter, que ce soit la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, la Basilique Saint-Pierre de Rome, que sais-je. Et symboliquement, eh bien, il s'approprie la Tour Eiffel, il s'approprie l'Arc de Triomphe, et voilà à nouveau un dispositif hiérarchique. Ensuite, les photographies, donc dit qu'elles faisaient partie d'un énorme projet de documentation du monde, eh bien, elles sont mises en stock, c'est-à-dire qu'elles deviennent une espèce de capital à la disposition de qui a produit les photographies. Et ce capital, il va être limité par rapport à ce qui se passe maintenant par les possibilités de reproduction de la photographie. Souvenons-nous que la photographie argentique, si on veut la reproduire directement, parfois un négatif de photo argentique ne peut pas supporter plus de quelques centaines de reproductions au grand maximum. Donc le seul moyen de diffuser à très grande échelle une photo argentique, c'était de changer de média, de passer à autre chose, de passer à l'imprimerie, et là on parlait d'une autre technologie, d'une technologie beaucoup plus lourde, et qui passait donc par quelques entreprises toutes construites sur le modèle des entreprises industrielles. Les photographies argentiques qui étaient reproduites par l'imprimerie, donc principalement d'abord pour les journaux, éventuellement pour des livres, mais tout d'abord pour les journaux, avaient le prestige de cette origine, de sembler être une empreinte des choses, et donc étaient productrices, détentrices de vérité. La photo argentique a été, pour le monde occidental, ou du moins le monde industrialisé, le symbole même de la vérité du point de vue visuel. Tout le monde savait que la peinture était quelque chose de profondément manipulable, mais avec la photo argentique, l'illusion dominante était qu'une photo argentique ne mentait pas. Mais comme en réalité, on le sait bien, on peut faire absolument ce qu'on veut d'une, presque ce qu'on veut d'une photo argentique, ce qui va se passer, c'est que très rapidement, la photo argentique va vouloir, dans les mains de nombreux professionnels, voire des amateurs les plus acharnés, les plus intéressés, elle va vouloir imiter l'esthétique de la peinture, et en particulier de la peinture illusionniste, c'est le mot technique en histoire de l'art, la peinture réaliste, pour me faire comprendre immédiatement, occidentale. Donc, elle va à la fois vouloir reproduire la réalité, mais elle va vouloir reproduire cette réalité en suivant les critères de production esthétique de la peinture occidentale. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe que dans une peinture apparemment purement réaliste, mettons peinture d'un paysage par exemple, en réalité, le peintre occidental, voire le peintre chinois ou japonais, veut que son image soit organisée selon des structures géométriques sous-jacentes qui seront vues comme plus ou moins belles. Il s'agit donc de géométriser les images, de leur donner une structure quasiment architecturale, à laquelle va contribuer la lumière, donc plus ou moins de lumière, plus ou moins de clair-obscur, plus ou moins de flou ou de précision, et le photojournalisme qui va vouloir tendre, saisir un moment précis, eh bien, ça va créer la religion de ce que Henri Cartier-Bresson a appelé fort justement l'instant décisif. La photographie, grâce à la rapidité des diaphragmes, qui peuvent s'ouvrir puis se fermer en, mettons, un millième de seconde, voire parfois moins, eh bien, va permettre de saisir des instants tellement fugitifs que l'œil humain, lui, a du mal à les saisir. Et à nouveau, ceci va augmenter le prestige de la photo argentique, va augmenter son aspect créateur de vérité. En tout cas, c'était l'illusion générale, je le répète. Et cette production esthétique, cette tentative d'imiter l'esthétique de la peinture, va être celle qui va permettre de donner à la photo argentique son prestige de forme d'art. Et là, on arrive à Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu qui, dans plusieurs ouvrages, entre autres dans La Distinction, va montrer qu'il va se passer quelque chose socialement autour de la photo argentique qui va devenir ce qu'il a appelé un art moyen. C'est-à-dire que la peinture, c'est un art qui devient très vite très élitiste, c'est difficile, ça demande un apprentissage extrêmement long. Il y a peu de très grands peintres et beaucoup de gens vont avoir l'illusion qu'ils peuvent créer des images aussi belles ou aussi intéressantes que celles de la peinture grâce à l'appareil photographique. Et donc, tout d'un coup, la photographie va devenir un art qui va, bien entendu, qui va avoir de grands artistes, de grands créateurs, mais qui va donner à des millions de gens accès à une pratique qui semblait réservée à une élite. Cette masse de photographes amateurs, l'un des plaisirs qu'elle ressent, c'est aussi, il faut l'avouer, cette illusion de monter hiérarchiquement. À nouveau, c'est-à-dire de devenir l'œil ordonnateur, c'est l'une des expressions d'André Rouillet dans son livre « La photo numérique », une force néolibérale paru aux éditions L'Échappée, c'est d'être cette espèce de démiurge qui immobilise le présent et qui en crée une image, sinon éternelle, du moins extrêmement durable. Je vous rappelle que vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité, c'est le Proton se rebiffe, et nous parlons du livre d'André Rouillet, La photo numérique, une force néolibérale, paru aux éditions L'Échappée. La structure donc pyramidale de la prise de photos argentique, hein, à nouveau la pointe de la pyramide, la pointe du code, c'est l'œil du photographe, et puis la base de la pyramide, eh bien, c'est ce qui est photographié à l'extérieur. Eh bien, cette pyramide se retrouve donc dans la structure du monde social de la photo argentique, avec des millions de photographes, des centaines de millions, voire des milliards de photographes, des centaines de millions, peut-être des dizaines de millions d'amateurs, et puis ça se réduit vers les professionnels. Je ne voudrais pas que tout ce que je dise sur le côté hiérarchique de la photo argentique, le côté de la verticalité hiérarchique de la photo argentique, soit vu comme exclusivement une critique de la photo argentique. La photo argentique a également permis à des millions de gens de mieux comprendre la structure des images, d'en créer, ma foi, de très belles. La photo argentique a quand même créé des choses absolument magnifiques. Et c'est encore une pratique, ma foi, tout à fait louable, à condition de ne pas être victime d'illusions quant à son pouvoir de vérité. Avec le cinéma, la photo argentique est donc un art particulièrement caractérisant le XXe siècle. C'est un art neuf et qui semblait destiné à devenir un art sinon éternel, du moins presque intangible, comme la sculpture ou la peinture. En réalité, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le 21e siècle, lui, va arriver, et avec lui, l'invention de l'Internet et toute l'explosion technologique du numérique. À ce propos, André Rouillet cite, en page 21 de son livre, un titre du Monde diplomatique du juillet 2013, « Mise en données du monde, le déluge numérique ». Alors, on parle vraiment de déluge, puisque selon l'Observatoire des professions de l'image, en 2012, cet observatoire estimait qu'il y avait eu entre 500 à 850 milliards de photos numériques prises dans le monde en 2011, alors que la prise de photos argentiques n'avait probablement pas dépassé les 4 milliards d'images. Cet écart absolument gigantesque, eh bien, il est dû à l'explosion de la photo numérique et en même temps à l'effondrement de la photo argentique. On estime en effet qu'il y a eu 85 milliards de clichés argentiques en l'an 2000 et qu'en 2011, il n'y en a déjà plus que 4 milliards. Un autre élément extrêmement important de la production de photos numériques, c'est qu'elle est effectuée principalement à partir des smartphones. On sait que le nombre de smartphones a complètement explosé lui aussi. Il y avait à peu près 1 milliard de smartphones sur la planète en 2013. Il devrait y en avoir eu approximativement 3,8 milliards en 2021 et cette explosion n'est pas prête de s'arrêter. André Rouillet analyse les différences absolument fondamentales entre la photo numérique et la photo argentique. Et il commence par affirmer que la photo numérique diffère de la photo argentique en ceci qu'elle est à la fois une image langage, une image écran et une image réseau. Voilà qui semble un peu bizarre. Alors je répète, une image langage, une image écran et une image réseau. Alors commençons par l'image langage. André Rouillet écrit ceci. Entre la photo numérique et la photo argentique, les différences ne sont pas de degré, mais de nature. Leurs matériaux, leurs protocoles de production, leur mode de circulation et leur surface d'inscription, le papier ou bien les écrans, appartiennent à des univers techniques et matériels radicalement différents. D'une photo à l'autre, les images passent d'une nature de chose, pour la photo argentique, à celle d'un langage, pour la photo numérique. Leur protocole de production et de circulation se détourne de la chimie pour la photo argentique, au profit du calcul. Leurs matériaux ne sont plus faits d'argent et de papier pour la photo argentique, mais exclusivement de nombres binaires pour la photo numérique. André Rouillet continue en expliquant que la photo argentique restait dans l'univers des choses, concrètes, matérielles. Une chose que l'on avait photographiée devenait une empreinte sur des selles d'argent, puis sur des papiers après tirage. Donc la photo argentique allait d'une chose à une chose, des choses du monde à des images choses. La photo numérique, elle va, et je cite là aussi André Rouillet, des choses du monde à des images nombres calculées. En effet, dès que la lumière reflétée par ce que l'on veut photographier frappe la cellule photoélectrique dans le smartphone, eh bien, le smartphone transforme immédiatement ceci en bits, en 0 et 1 de l'univers digital. Et après, cette information, c'est-à-dire l'image elle-même, n'est plus que cette série de 0 et de 1. Bref, elle n'est plus qu'une opération de calcul. Et cette série calculée va être la structure, le statut, la mémoire de l'image de la photo numérique jusqu'au moment où l'écran d'un smartphone ou l'écran d'un ordinateur, à partir de la séquence de 0 et de 1 envoyée, va illuminer ou non des pixels et sur l'écran, notre œil va à nouveau pouvoir reconnaître une image. Mais pendant tout le transit, la photo numérique n'est qu'un calcul. Donc le calcul étant l'un des langages de l'être humain, eh bien, une photo numérique, c'est d'abord un langage et ça n'est pas une chose comme l'est la photo argentique. Et là, bien entendu, les personnes astucieuses vont immédiatement émettre une objection et vont dire « Oui, mais c'est bien gentil, le numérique, ça n'est pas virtuel. Le numérique, ça n'est pas immatériel. Le numérique dépend d'une énorme, extrêmement lourde infrastructure matérielle. » D'ailleurs, le smartphone lui-même, bien entendu, est un objet des plus matériels. Sa production a engendré des pollutions sans limite, on le sait bien. Et puis, toute l'infrastructure par laquelle transitent les photos numériques est une infrastructure extrêmement matérielle, puisque ça passe par des serveurs, par des réseaux, par des ordinateurs, par des écrans, par des relais Wi-Fi, par des câbles terrestres et sous-marins, par des satellites, etc. Et c'est là l'un des paradoxes de la photographie numérique, c'est cette apparente immatérialité de la photo numérique, mais qui est basée sur une infrastructure matérielle extrêmement lourde. Donc nous allons y revenir souvent, il y a dans la photo numérique à la fois un paradoxe et un déguisement entre la légèreté, la fluidité, l'immédiateté des photos numériques qui circulent en un flux extrêmement rapide, et puis l'immobilité, la lourdeur, l'extrême matérialité des infrastructures qui permettent à ces flux de séquences de nombres de circuler à grande vitesse. André Rouillet, qui est très porté sur la philosophie, heureusement, rajoute ceci, « Les photos argentiques sont donc bien des images choses, mais les photos numériques sont d'abord et avant tout, du point de vue, alors on va utiliser un terme compliqué, du point de vue phénoménologique, c'est-à-dire du point de vue de ce que nous en percevons, nous, eh bien elles sont d'abord des événements et des processus. » On verra un peu plus loin encore en continuant à présenter l'analyse qu'a fait André Rouillet, que la photo argentique, la photo numérique, à l'inverse de la photo argentique, veut moins garder le passé que intervenir dans le présent. Et elle est donc surtout un processus, puisqu'elle dépend à chaque fois pour qu'elle apparaisse à nos yeux, à chaque fois il va se reconstituer un processus. Nous avons dit avec André Rouillet que les photos numériques sont des images langage, mais ensuite il nous dit que ce sont aussi des images écran. Et là aussi, cela a une importance extrême. En effet, les photos argentiques Et les anciennes images humaines, c'est-à-dire la peinture, la fresque, etc., eh bien, tout ceci arrivait sur des surfaces extrêmement différentes de ce que nous connaissons avec la photo numérique. En particulier, pour la photo, eh bien, la surface d'inscription privilégiée, c'était le papier, soit du papier photosensible, soit du papier d'imprimerie et qui permettait aux photographies d'être montrées dans des journaux ou dans des livres. En revanche, avec la photo numérique, eh bien, la surface de présentation, la surface d'inscription privilégiée, c'est un écran numérique. Bien entendu, on peut parler de l'imprimante qui permet d'opérer une espèce de retour de l'image à l'image chose, parce que quand on fait passer une photographie prise numériquement par une imprimante, eh bien, ce qu'on obtient, c'est une image chose, exactement comme avec la photographie. Néanmoins, on sait bien que l'usage des imprimantes, pour diffuser qu'il soit, reste incomparablement moins fréquent que l'énorme usage de la photo numérique présentée sur les écrans des smartphones. Enfin, André Rouillet nous dit que les images numériques, les images des photos numériques sont des images réseau. Et là, à nouveau, il suffit de le citer pour comprendre. Dans un monde en ébullition, foisonnant d'écrans et tissé de réseaux, la photo numérique s'affiche sur les uns et sillonne. En revanche, dit-il, la révolution industrielle à laquelle est associée la photo argentique s'est accompagnée d'une révolution des transports, le chemin de fer, la marine à vapeur, et d'un vaste mouvement d'expansion de l'Occident. Les opérations militaires et religieuses, les missions, les explorations scientifiques et archéologiques ont largement eu recours à la photo argentique pour prolonger leur pouvoir, leur savoir et leur regard sur les nouveaux espaces de la planète, pour les conquérir visuellement. Mais maintenant, il ne s'agit plus désormais de conquérir des espaces, mais de les connecter en temps réel. En d'autres termes, maintenant, les êtres humains ont parcouru l'intégralité de la planète et ils en ont photographié la majeure partie. Et donc maintenant, ce qui se passe avec la photo numérique, c'est qu'elle va connecter tout ce que nous savons plutôt que de découvrir des choses que nous ne savions pas. Encore, le philosophe montre le bout de son nez, car André Rouillet nous explique que les images des photos argentiques sont fondamentalement centripètes, c'est-à-dire qu'elles vont de l'extérieur multiple et varié vers un centre qui est l'œil du photographe, puis plus tard l'œil de la personne qui regarde les photographies, alors que les photos numériques sont des images fondamentalement centrifuges. C'est-à-dire que du moment où a été créée sur un smartphone ou dans un ordinateur une photo numérique, eh bien celle-ci, dans la pratique réelle, devient centrifuge puisqu'elle va être diffusée, relancée dans des réseaux, elle va parcourir des centaines de réseaux, elle peut éventuellement apparaître sur des milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions d'écrans. Et donc il y a là un mouvement parfaitement opposé dans un sens et dans l'autre. À partir de cette notion du côté centrifuge de la photo numérique, André Rouillet nous présente une classification sociologique assez désobligeante, mais réelle, car il parle des infra-amateurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un infra-amateur ? Bien évidemment, c'est quelqu'un qui est encore au-dessous d'un amateur. Alors, il rappelle que dans la photo argentique, vous aviez tout en haut les professionnels, puis ensuite, vous aviez les amateurs très très amateurs, les gens, par exemple, qui étaient membres des photoclubs. Vous aviez ensuite des amateurs qui, sans être membres de photoclubs, mettaient quand même un certain effort dans la production, en particulier esthétique, de leur photographie. Et puis, vous aviez des gens qui prenaient des photos juste pour documenter tel ou tel instant. Et avec l'explosion du nombre des smartphones, eh bien, cette dernière catégorie, celle des gens qui prennent des photos simplement pour prendre une photo, qui n'y mettent pas nécessairement beaucoup d'efforts esthétiques, cette catégorie des infra-amateurs, elle a, elle aussi, explosé. Et là, à nouveau, je reprends le texte d'André Rouillet. « Pour la plupart d'entre eux, la photo argentique appartient à un univers étranger et à une époque révolue, tant par ses appareils et ses modes opératoires que par ses esthétiques. Étrange leur paraît souvent cette chose lourde et encombrante que l'on manipulait, prenait en main, portait à l'œil, et qui ne délivrait ces images qu'après de fastidieuses manipulations techniques dans la profonde obscurité des laboratoires. Par contraste, l'appareil photo des infra-amateurs n'a ni existence autonome, ni consistance physique. C'est une simple application parmi d'autres, sans poids ni relief, téléchargée souvent gratuitement sur leur smartphone et déclinée au sein même de beaucoup d'autres applications de communication, SMS, Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook, etc. Actionnée par simple contact du doigt sur l'écran lisse de l'appareil, cette application, ouvrez les guillemets, photo, fermez les guillemets, délivre des images immédiatement disponibles et aussitôt partageables via Internet et les réseaux sociaux. Un smartphone est aussi peu un appareil photo qu'un infra-amateur est un photographe ou même un amateur. Ce sont des opérateurs aussi étrangers aux photographes et aux amateurs que le sont leurs appareils, leurs pratiques, leur culture. Quant à leurs images, comme on le verra par la suite, elles sont aussi différentes sur les plans des quantités, des formes et des esthétiques, des usages, des matières ou des modes de diffusion. Le smartphone est plus qu'un téléphone, plus qu'un appareil photo, plus qu'un émetteur-récepteur de mail ou de SMS, plus qu'un navigateur Internet, plus qu'un magnétophone ou une radio. C'est un objet total qui s'est fixé sur les corps comme une prothèse devenue soudain nécessaire à la vie. Comme aucun autre appareil jusque-là, il fait corps avec son utilisateur qui le consulte en moyenne 221 fois par jour. Il assiste ses actions jusque dans les zones et les moments infraordinaires de sa vie, d'où émergent des images, des formes et des contenus inouïs qui font dériver les esthétiques existantes. Le smartphone est ainsi l'instrument d'un nouveau régime des regards, ceux qu'une véritable hydre omnivoyante jette sur le monde. Une hydre omnivoyante. Ce mot « hydre omnivoyante » semble évoquer quelque chose qui s'attaque, quelque monstre qui s'attaque à quelque chose d'extérieur à lui-même. Mais en réalité, l'hydre omnivoyante, c'est-à-dire les 3,8 milliards, les sans doute 4 milliards et demi maintenant de propriétaires de smartphones, eh bien, à qui s'attaque-t-il ? À eux-mêmes. Ce que souligne André Rouillet dans son livre, c'est que depuis la création de Facebook, depuis la création des smartphones, eh bien, on n'a jamais autant pénétré dans ce qu'il appelle le sanctuaire privé du sujet occidental. Et c'est là que nous commençons à nous approcher du lien entre la photo numérique et le néolibéralisme. Là-dessus, André Rouillet dit la chose suivante. Le néolibéralisme s'est imposé quand, à la fin des années 70, le monde est apparu trop étroit, trop rigide et trop statique pour accueillir l'effervescence croissante du capitalisme. Étroit, rigide, statique, le monde l'était selon les néolibéraux. Dans les règles et les lois des sociétés occidentales elles-mêmes, dans les rythmes, les vitesses et les façons de produire, de communiquer, de se déplacer, dans les matières des choses, dans l'ensemble des structures des sociétés, et même dans les découpages du monde en nations jalousement refermées sur leur souveraine autonomie. C'est contre cet état du monde que se sont cristallisées les forces d'une révolution néolibérale planétaire, non pas sous une forme insurrectionnelle, non pas sous le grand soir du capital, ça c'est moi qui le dis, mais par un processus polyphonique continu de déconstruction des structures économiques, industrielles et sociales modernes jugées trop lourdes et inadaptées à l'essor du capitalisme. Le néolibéralisme se manifeste par un vaste mouvement de dérégulation des activités, un basculement d'un monde de verticalité vers un monde d'horizontalité. Là, bien entendu, il ne faut pas prendre le mot « horizontalité » dans le même sens que celui que nous, les anarchistes, nous lui donnerions, évidemment. Je reprends ce que dit André Rouillet. Les néolibéraux préconisaient moins l'affrontement que l'incitation et le contournement. Non pas écarter les gouvernants de l'économie, mais les conduire à gouverner en faveur des marchés. Quant aux classes populaires, la méthode, elle aussi incitative, consistait à les déprolétariser, à universaliser l'éthos entrepreneurial en exhortant les salariés à mener leur vie comme on gère une entreprise. Et ça, bien entendu, on le sait par exemple en France, avec ce statut scandaleux de l'auto-entrepreneuriat. où un auto-entrepreneur est censé être le chef d'entreprise de lui-même. Et cette invasion de la marchandisation, cette invasion du capitalisme dans la totalité de la vie, eh bien, c'est ça la caractéristique de notre temps. Mais c'est également la caractéristique de la photo numérique. Car cette infinie explosion de la photo numérique, eh bien, c'est à la fois le reflet, c'est l'une des causes et c'est l'une des conséquences du néolibéralisme. Le néolibéralisme veut que le capital, que la marchandisation, que la monnaie envahissent absolument tous les moments de notre vie. Et la photo numérique, la photo du smartphone, eh bien, tout d'abord, elle, dans l'activité de nombre d'infra-amateurs, eh bien, elle est présente à tous les moments de la vie. Le smartphone est présent à tous les moments de la vie. Et en même temps, elle immédiatement transforme tous ces moments de la vie en quoi ? Eh bien, en ce qu'elle est, c'est-à-dire des séquences de nombres. Et ces nombres ont ensuite de la puissance pour recréer quelque part une image. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le mécanisme même de l'argent. Qu'est-ce que c'est que l'argent ? L'argent, ce sont juste des nombres. Ça n'est rien, l'argent. Un billet de 100 euros, malgré toute la valeur qu'il peut avoir, en soi, c'est juste un bout de papier. Le billet de 100 euros n'a de valeur que d'abord parce qu'il représente un nombre et que nous avons foi dans ce nombre. Nous savons que 100 euros, eh bien, nous pouvons avoir confiance dans le fait que ça va nous payer X repas au restaurant, ça va nous payer tel ou tel objet. Donc, nous avons bien un processus qui part d'une activité humaine réelle, laquelle se transforme en une séquence de nombres, et cette séquence de nombres permet de reconstituer ensuite une autre activité humaine ou l'obtention d'un objet. C'est-à-dire qu'on passe bien par le même processus que la photo numérique qui, devant telle ou telle réalité humaine ou concrète, la transforme en une séquence de nombres et cette séquence de nombres est ensuite utilisée pour en reconstituer l'image. La différence, mais ça n'est finalement pas une différence si grande que ça, c'est que la photo numérique, eh bien, cette séquence de nombres peut voyager à une vitesse absolument extraordinaire, presque la vitesse de la lumière. Une photo, maintenant, peut être diffusée sur l'ensemble de la planète en quelques secondes. Et cette photo, douée maintenant du don d'ubiquité, est également douée d'une flexibilité absolument ahurissante, car puisqu'elle est une séquence de nombres, dans chaque smartphone qui la reçoit, dans chaque ordinateur qui la reçoit, eh bien, le récepteur peut la modifier, peut l'insérer dans ce qu'il veut, peut l'enlever de ce qu'il veut, peut la répéter, on peut en faire tout ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'à nouveau, voilà quelque chose qui s'approche de l'infinie flexibilité de l'argent. La photo numérique, le digital et le fric, c'est la même chose. Et cette identité de nature entre l'argent et la photo numérique à l'ère néolibérale va également dans l'ontologie même de la photo numérique, parce qu'une photo numérique, comme le répète très souvent dans son livre André Rouillet, à l'inverse de la photo argentique qui est une chose, qui est un objet concret, eh bien la photo numérique, elle est également une force, puisqu'elle est un événement, puisqu'elle est un processus, puisqu'elle est infiniment flexible, puisqu'elle est douée du don d'ubiquité, puisqu'elle se déplace sur la planète à quasiment la vitesse de la lumière, eh bien, c'est bien une force. Et c'est là une profonde différence avec la photo argentique précédente. Mais c'est également donc un point commun avec l'argent, qui, on ne le sait que trop, en particulier quand on n'en a pas beaucoup, l'argent est bien une force lui aussi. Et c'est là qu'arrive un pillage, une invasion qui n'est même pas parallèle, qui est absolument simultanée. De même que dans le monde néolibéral dans lequel nous vivons à l'heure actuelle, l'argent envahit tout. La quantification, le culte de la performance, le culte du nombre, de l'évaluation envahit absolument tout, que nombre d'employés de niveau relativement élevé, voire parfois de niveau relativement bas, sont obligés de passer de plus en plus de temps à travailler, en particulier grâce au travail à distance, où maintenant les entreprises peuvent exiger que l'on travaille chez soi. Eh bien, exactement de la même façon, la photo numérique et le numérique envahissent la totalité de la vie quotidienne. Et la photo numérique est par conséquent, et c'est là une comparaison magnifique que donne André Rouillet dans son livre « La photo numérique, une force néolibérale », la photo numérique, et d'ailleurs le numérique en général, sont des chevaux de Troie. On sait que le cheval de Troie, qu'est-ce que c'est? C'est apparemment un don des Grecs aux Troyens pendant la guerre de Troie. C'est un beau cheval qui est censé être une offrande aux dieux troyens. Mais en réalité, dans le ventre du grand cheval de bois offert aux Troyens, il y a des soldats grecs qui, dès qu'ils seront une fois dans les remparts, derrière les remparts de Troie, eh bien, ils vont envahir la ville et la détruire. Et c'est exactement ce qui se passe avec la photo numérique et avec le numérique en général. Alors déjà, ça se passe à un niveau extrêmement concret, parce que, comme on le sait, les photos numériques pouvant être diffusées grâce à des applications, à nouveau Facebook, Snapchat, Instagram, etc., on sait très bien que ces applications et les entreprises qui sont derrière ces applications recueillent constamment des milliards de données sur des milliards d'utilisateurs. Et l'on sait également que le business model, que la manière dont ces entreprises gagnent de l'argent, eh bien, c'est tout simplement de revendre ces données extrêmement précieuses, puisqu'elles permettent de déterminer à un degré absolument stupéfiant de précision qu'est-ce que c'est que la vie quotidienne, qu'est-ce que c'est que les goûts, les dégoûts, les peurs, les désirs, les rêves de milliards de gens. On sait, avec le scandale de Cambridge Analytica, que l'une des nombreuses raisons de la victoire de Donald Trump aux élections américaines il y a hélas maintenant 5 ou 6 ans, eh bien, elle était due en grande partie à ce que cette entreprise, Cambridge Analytica, avait pu rassembler des centaines de millions, des milliards de données sur les électeurs américains, en particulier grâce aux données de Facebook, de Google, etc., parce qu'on pouvait dresser un portrait extrêmement précis de dizaines de millions d'individus. Et de manière vraiment complètement individuelle, ce qui permettait de déterminer de manière quasiment certaine qui allait voter quand, et à ce moment-là, évidemment, d'adapter les messages publicitaires, alors les messages publicitaires politiques, à la personnalité des gens. Et ce phénomène-là, il est en pleine expansion. À chaque fois que quelqu'un prend une photographie sur un smartphone, eh bien, cette personne ne se rend pas compte qu'en même temps, elle est en train de fournir une quantité de données absolument stupéfiante aux fameux GAFAM, aux grandes entreprises qui commencent à quasiment monopoliser, ou en tout cas oligopoliser, la fourniture de services numériques. Et c'est là le grand paradoxe de cette société néolibérale, et André Rouillet, à la suite d'autres penseurs, parle d'un pouvoir séducteur. Le pouvoir, nous les anarchistes, nous le connaissons bien parce que nous luttons contre depuis tant d'années, le pouvoir a souvent été un pouvoir d'une très grande brutalité, d'abord fondé tout simplement sur la menace de la violence, ça c'est le bâton. La carotte étant par exemple les religions, ou bien le fait, si on est un bon collabo du régime, qu'on va pouvoir espérer de l'argent, de la puissance, du prestige, etc. Mais le pouvoir de nos jours, le pouvoir permis par l'univers numérique, et entre autres choses par la photo numérique, eh bien, c'est un pouvoir séducteur. Pourquoi ? Parce que ces photos numériques sont apparemment gratuites. C'est la même arnaque qu'avec l'email, dont on dit « mais l'email ne vous coûte rien à envoyer ». On oublie bien entendu le coût d'achat du smartphone, le coût d'abonnement aux services qui permettent d'envoyer, par exemple, les emails ou les messages. Mais effectivement, en apparence, au moment où on envoie tel ou tel message, au moment où on prend telle ou telle photo et qu'on la diffuse, apparemment, on ne dépense rien. Et en même temps, et c'est là l'une des séductions de ces pouvoirs, tout d'un coup, de pouvoir ainsi diffuser sa propre image dans les smartphones, dans les écrans de dizaines, de centaines, voire de milliers de personnes. Mais quel fabuleux massage du narcissisme de chacun. Les réseaux sociaux, la photo numérique sont d'extraordinaires machines à faire croire aux anonymes qu'ils ne sont pas des anonymes, qu'ils sont des célébrités, qu'ils sont des personnes importantes, qu'ils sont des personnes qui bénéficient de l'attention d'autrui. On dit souvent que le numérique et les médias, eh bien, ils achètent du temps de cerveau disponible. Mais la manière dont ils réussissent à acheter ou à séduire, à voler du temps de cerveau disponible, c'est qu'ils font la promesse implicite à chacun de leurs utilisateurs et de leurs utilisatrices que grâce à eux, grâce à Facebook, grâce à Instagram, grâce à Snapchat, eh bien, Monsieur Dupont, Mademoiselle Dupont vont être admirés, vont capter l'attention d'un certain nombre d'autres êtres humains. Et cette escroquerie, eh bien, elle est absolument à la base de la photo numérique. Parmi, bien sûr, les nombreux problèmes qui sont causés par cette situation, je passe sur la richesse absolument scandaleuse, obscène, extraordinaire des pouvoirs numériques, des propriétaires de Google, de Facebook, etc. Il y a autre chose qui me semble personnellement tout à fait grave. C'est-à-dire que l'hégémonie de la photo numérique est en train de détruire l'un des plus beaux instruments humains. C'est-à-dire la photo numérique et le numérique en général sont en train de détruire le langage. De plus en plus de gens communiquent non pas avec des phrases complexes, solides, riches, intelligentes, mais avec des images. Et des images dont le contenu, dont la structure sont de plus en plus banales et stéréotypées. On pourrait penser que des milliers d'images, eh bien, c'est une floraison créative extraordinaire, que jamais l'humanité n'a autant produit de choses étonnantes. En réalité, nous le savons tous, 99%, 99,99% des images échangées par smartphone sur les différents médias sociaux n'ont strictement aucun intérêt. Elles n'ont pas d'intérêt esthétique, elles n'ont pas d'intérêt symbolique, elles n'ont qu'à peine un très bref intérêt émotionnel. Alors quand je dis très bref, je mentionne par exemple le réseau Snapchat, où on sait que les images disparaissent au bout d'une dizaine de secondes maximum. Et bien entendu, c'est là un terrifiant recul de la raison, ça c'est l'expression exacte d'André Rouillet dans son livre « La photo numérique, une force néolibérale ». Et ce recul de la raison, il est extrêmement inquiétant, parce qu'on peut se demander comment pourra-t-on faire pour que tous ces échangeurs de photos absolument sans intérêt retrouvent non seulement le goût d'une communication intelligente qui utilise le langage et qui utilise la réflexion, non seulement donc le goût, mais également la capacité. Alors, ça peut sembler tout d'un coup une redescente dans la petite histoire ou dans l'anecdote, mais je me trouve actuellement à Venise et dans un restaurant chinois. Oui, il y a plein de restaurants chinois, pas tellement à Venise, mais en réalité à Marghera, donc pas loin de Venise. Et ce midi, j'étais entouré de jeunes Chinois, et je ne surprendrai personne en disant que dans ce restaurant, un restaurant pas cher, hein, où les gens venaient déjeuner pendant leur pause, déjeuner du travail, eh bien, sur presque chaque table, les smartphones étaient allumés, que j'ai vu au moins 4 couples de jeunes personnes, d'approximativement, on va dire, 20 ans, avec le garçon regardant un film sur son smartphone, le smartphone étant adossé à son verre de bière, la jeune fille en faisant tout autant, d'autres tables où le couple, la femme et l'homme, chacun d'entre eux parlait à quelqu'un d'autre dans le smartphone. Voilà une vision que je qualifie personnellement de vision d'enfer, et qui ne surprendra absolument personne, car je pense que la totalité des auditrices et des auditeurs de Radio Libertaire ont vu ce genre de choses arriver. Alors, je vais terminer en recommandant plus que vivement le livre d'André Rouillet, « La photo numérique, une force néolibérale s'est paru à l'échapper ». Et vous étiez donc, et vous êtes toujours, et vous pouvez continuer à être sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et c'était le Proton se rebiffe.